traduction de l'Alléluia, louez Dieu tous ses anges, louez-le toutes ses armées.
Alléluia. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu ? » Il leur dit « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc et ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ ». André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon ». Fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Notre évêque a annoncé qu'il envisager sa retraite. Et avant de partir, il demande aux paroisses de faire une relecture, un bilan sur la façon dont elles vivent la communion et la mission. Donc en son temps, vous allez être sollicités pour participer à cette réflexion, cette relecture. Mais pour l'heure, l'évangile d'aujourd'hui, justement, peut nous aider à aller au fondement de ce que c'est que la communion, de ce que c'est que la mission, qui sont toutes les deux fondées sur la vocation, l'appel de Dieu, l'appel du Seigneur. Nous sommes tous appelés à vivre avec Dieu. Et pour vivre avec Dieu, il faut que nous soyons établis comme les disciples de son Fils, les disciples du Christ. La vocation n'est jamais quelque chose de simple, de facile. On aimerait bien avoir à entendre un appel très clair et pour pouvoir y répondre d'une manière définitive. Les lectures que nous avons entendues montrent que ce n'est pas comme cela que cela fonctionne. Pour entendre l'appel du Seigneur, il faut qu'il y ait un discernement qui peut prendre du temps. Cette notion de temps, elle est exprimée dans l'Évangile lorsque Saint Jean dit que c'était vers la dixième heure, c'est-à-dire vers 4 heures de l'après-midi. C'est pas tout de suite, c'est pas, il a fallu du temps. Et nous l'avons entendu dans la vocation de Samuel. Élie, pourtant le prophète, celui à qui Dieu parle. Élie doit s'y prendre quand même à 3 fois avant de pouvoir dire à Samuel, eh bien, tu diras, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et quand nous lisons l'Évangile, nous voyons c'est ce temps nécessaire au discernement de sa vocation, à la mise en œuvre de sa vocation. C'est peut-être pas sans signification que pour se manifester au monde, Dieu par le Christ s'y est pris en 3 fois. La nativité, l'adoration, le baptême de Jésus et les noces de Cana. Ou même pour l'Église, pour que l'Église découvre sa mission et sa vocation. Mais il a fallu la résurrection, il a fallu donc la rencontre de Jésus avec les uns avec les autres, et Jésus ressuscité, il a fallu l'ascension, il a fallu la Pentecôte. Et à ce moment-là, nous entrons dans le temps de l'Église. De même, si vous vous souvenez, lorsque Jésus ressuscité s'approche de Pierre, c'est bien par 3 fois, comme Élie pour Samuel, mais c'est bien par 3 fois que Jésus demande à Pierre, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Avant que Pierre, inspiré par l'Esprit Saint, discerne la réponse qu'il doit donner. Il en est de même pour nous. Notre vocation n'est jamais acquise définitivement. Nous avons besoin de ce temps de discernement, ce temps de maturité, ce temps de compréhension pour finalement nous établir dans cette communion avec le Seigneur. Alors si nous avons à méditer sur notre vocation, si nous avons à, et nous le devons, à prier pour les vocations, comprenons bien que nous ne faisons pas de la magie, nous ne faisons pas des incantations pour que les cigognes mystiques viennent déposer aux portes des presbytères des prêtres ou des diacres. Il y a tout un travail qui n'est jamais un travail solitaire. Là aussi, c'est le deuxième élément que nous devons comprendre. Il y a une médiation humaine. Il a fallu que Jean-Baptiste montre à ses disciples, voici l'agneau de Dieu. Il a fallu que André aille dire à son frère, Pierre, on a trouvé le Messie. Samuel, pour comprendre, a eu besoin d'Élie. Il y a aussi une médiation nécessaire. La vocation n'est pas seulement une démarche individuelle, n'est pas seulement une démarche personnelle. Elle doit s'appuyer parce que Dieu l'a voulu ainsi. Ce n'est pas pour rien que le Christ, pour apporter la révélation de l'amour du Père, n'a pas fait cavalier seul. Il a choisi des apôtres. Ce n'est pas pour rien que Dieu, pour se révéler au monde, s'est choisi un peuple. Il y a aussi cette dimension-là dans notre manière de répondre à notre vocation. Et pour nous, cette médiation,
Mais c'est l'Église. Nous ne pouvons pas discerner notre vocation, nous ne pouvons pas vivre notre vocation chrétienne en nous affranchissant de l'Église. Et je ne parle pas de l'Église institutionnelle, comme institution, c'est-à-dire comme fonctionnement structuré d'un groupe. Je parle du mystère de l'Église. Et la tentation, justement, à l'égard de l'Église, hein, c'est de ne la regarder que comme une structure, que comme une institution. Comme ça, on peut la charger de tous les défauts et s'affranchir hein, du message qu'elle nous délivre et de cette médiation qu'elle opère pour nous conduire, nous montrer le Christ et nous inviter à demeurer à ses côtés. Et puis, il y a donc cette communion. Là, il y a quelque chose, on rejoint la dimension ecclésiale qui est importante. Il y a cette dimension de voir parce qu'on nous a montré. Donc on ne cherche pas à voir ce que l'on a déjà en soi. On cherche à voir ce que l'on ne connaît pas, ce qui nous échappe. C'est pour ça qu'on a besoin, d'un autre. On a besoin d'un Jean-Baptiste. Les disciples qui étaient avec Jean attendaient le Messie. Au fond d'eux-mêmes, ils avaient cette attente, ils avaient cette espérance, ils avaient ce désir. Mais il a fallu que Jean-Baptiste leur montre. Sinon, ils ne l'auraient pas trouvé tout seul. Alors que Jésus, nous dit l'Évangile, allait et venait. Il était là sous leurs yeux. Il a fallu leur montrer. Et alors, Jésus se tourne vers eux, hein, c'est-à-dire pour les inviter à eux-mêmes opérer une conversion, eux-mêmes opérer un virage, et leur pose cette question, « Que cherchez-vous ? » Il ne leur demande pas « Qui cherchez-vous ?» mais bien « Que cherchez-vous ? » Ce n'est pas seulement une rencontre individuelle, être disciple, ce n'est pas seulement avoir cette rencontre personnelle individuelle avec le Christ, bien évidemment qu'il faut l'avoir, mais cela va beaucoup plus loin. Ce n'est pas « qui cherchez-vous » mais « que cherchez-vous » Et là, cette question, nous pouvons l'entendre, nous, aujourd'hui, si nous avons à raviver notre vocation. Que cherchons-nous ? Que cherchons-nous ? Nous avons au fond de nous-mêmes ce désir de vivre avec le Christ. Nous avons au fond de nous-mêmes ce désir d'être des saints. Sinon, on n'est pas chrétien. Mais la question nous est posée. Pas « qui cherchons-nous ? » Bien sûr, nous cherchons le Christ. Que cherchons-nous ? C'est-à-dire, où voulons-nous établir notre vie ? Sur quel fondement nous voulons la construire ? Alors, il nous faut poser cette question, et c'est ce qui anime la vie de tout chrétien, rabbi, maître, c'est-à-dire celui qui enseigne, celui qui apporte ce qu'on n'a pas, ce qu'on ne sait pas. Rabbi, où demeures-tu ? Et le verbe « demeurer » chez saint Jean est chargé d'une signification très, très profonde. Ce n'est pas seulement une indication géographique, c'est vraiment une communion globale, totale. Où demeures-tu ? Venez et vous verrez. Venez et vous verrez. Il faut venir au Christ pour voir. Et voir, chez saint Jean, c'est croire. C'est entrer dans la foi. Rappelez-vous quand saint Jean court, hein, il vit et il crut. Mais là, il faut voir, venir et voir. On a encore ce dynamisme, cette démarche de croissance. Et lorsqu'ils le voient, eh bien, ils restèrent, ils demeurèrent. Demeurez avec le Christ. Demeurez avec le Christ. Et pour cela, eh bien, cela ne peut fonctionner. Là aussi, c'est quelque chose de très important. Il ne s'agit pas seulement de chercher à voir le Christ. Nous ne pouvons chercher à voir le Christ que si d'abord le Christ nous regarde. Jésus se tourne et les voyant, il leur demande. De même, lorsque André amène Pierre, Jésus pose son regard sur Pierre. Et c'est parce que le Christ pose son regard sur Pierre qu'alors Pierre reçoit sa vocation. ce regard de Jésus. Et je terminerai avec ça. Hein. Voilà, nous ne pouvons vivre la communion, nous ne pouvons vivre comme disciples, comme missionnaires, que si nous sommes sous le regard du Christ. Il ne peut y avoir de dialogue avec Jésus que si nous nous plaçons sous son regard. Il n'y a pas de ligne téléphonique avec Jésus. Il n'y a pas d'internet avec Jésus. Il faut se mettre sous son regard, sous le regard de Jésus. Alors pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire se mettre sous le regard de Jésus? Eh bien, nous nous mettons sous le regard de Jésus lorsque nous allons à la rencontre du Christ. Et où est le Christ? Où est le Christ? L'Évangile nous donne des indications. Lorsque deux ou trois seront réunis en mon nom, je serai là au milieu d'eux. Aujourd'hui, en célébrant cette Eucharistie, nous nous mettons sous le regard du Christ. Alors nous pouvons discerner notre vocation. Nous pouvons alors poser au Christ cette question, « Où demeures-tu pour que nous puissions rester avec toi ?» Où est le Christ? Ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. En allant à la rencontre du pauvre, du faible, du démuni, nous nous plaçons sous le regard du Christ. Et c'est peut-être d'ailleurs une clé de lecture de l'enseignement du pape. On dit, notre nouveau pape, il est très social, il est bon, il vient d'Amérique latine, c'est normal là-bas. Bon, ça, c'est l'analyse qu'on peut faire sociologiquement, rationnellement, bon, j'en sais rien, mais l'analyse théologique, c'est de se dire, mais le pape est en train de nous donner ce témoignage qu'il se place sous le regard du Christ, en ayant cette attention, ce désir de rencontrer les plus pauvres, et en nous invitant à prendre ce chemin. Voilà donc deux aspects, et on pourrait en trouver d'autres, mais deux aspects pour découvrir comment se mettre sous le regard du Christ. Nous avons donc besoin toujours de Jean-Baptiste pour nous dire « Voici l'agneau de Dieu ». Nous avons besoin que le Christ nous regarde, de nous mettre sous le regard du Christ, et ainsi nous pouvons alors discerner notre vocation, qui est fondamentalement la même pour tous les hommes, qui est celle de rester, de demeurer avec le Christ, et pour cela donc d'aller vers lui et de le voir, c'est-à-dire de nous mettre en route et de cheminer dans la foi.
Prenons le credo à la page 374.